Le journal Claire Vigier.
Bonsoir, le plus dur est à venir pour le HC La Chaux-de-Fonds. Le club jaune et bleu se déplace à Olten ce soir pour l'acte 4 de la finale du play-off de Swiss League de hockey sur glace. Une victoire permettrait au HCC de remporter le titre de champion. L'avenir de l'ancien bateau Planète Solar est moins sombre qu'il n'y paraît selon Raphaël Donjean. Le Neuchâtelois s'est rendu en Inde où le navire est échoué depuis août dernier. Taux de réinsertion exceptionnel pour le CNIP. Pas moins de 95% de Neuchâtelois inscrits à l'AI ont décroché un emploi après un stage en entreprise en 2022. Selon le Centre Neuchâtelois d'intégration professionnelle, la conjoncture économique a fortement dopé les chiffres. Et puis malgré les nuages, le ciel restera ce soir et cette nuit sec. Demain, le temps sera dans l'ensemble bien ensoleillé. Météo News prévoit des températures très douces en journée de 14 à 18 degrés. Le HC La Chaux-de-Fonds va au-devant de son Everest. Ce soir au Kleinholz, le club de hockey sur glace de la métropole horlogère défie Olten dans l'acte 4 de la finale des play-offs de Swiss League. Les Abeilles mènent 3-0 dans la série et n'ont besoin que d'un succès pour ramener la coupe au Mélèze, 27 ans après leur dernier titre. Membre de l'équipe qui avait été sacrée en mars 1996, Laurent Stellin nous livre ses clés pour remporter un acte décisif.
Que ça soit dans un tour comme on l'avait fait nous, qui était promotion-relégation, mais où chaque match est important, ou une série de play-offs, c'est tiers après tiers, c'est match après match, c'est la seule chose qui compte. Faut pas chercher plus loin, c'était chaque changement, chaque minute, chaque tiers, chaque match est à jouer et amène un peu plus loin. Donc demain soir, une fois de plus, c'est de prendre changement par changement, tiers par tiers, d'aller jusqu'au bout. Et j'en suis sûr que, à la lumière des trois derniers matchs, c'est de l'ordre du possible à Olten, ce qui n'aurait peut-être pas été forcément le cas en début de saison.
Parce que vous aussi, hein, vous avez gagné à l'extérieur, dans la patinoire de Grasshopper. Là, ce sera à Olten. Qu'est-ce que ça change de jouer loin de son public, ce genre de match ?
Parfois, pour un match tel que celui-là, c'est peut-être mieux finalement d'être à l'extérieur. Il y a moins de pression. En ce qui nous concerne, la pression du public n'était pas énorme à Gaetzé, puisqu'il n'y avait certainement pas grand monde de Gaetzé. C'est sûr qu'à Olten, la donne est un peu différente. Ils ont aussi un public qui est derrière son équipe. Et j'ai pu lire et entendre que c'était chaud le dernier match à Olten. Donc il faut faire abstraction de tout ce qui est extérieur, se concentrer sur le jeu. À la fin d'un match, tout est possible.
Des propos recueillis par Damien Piscopiello. L'acte 4 de la finale est à suivre en direct et en intégralité sur RTN ce soir dès 19h30 et également sur nos réseaux sociaux. Raphaël Donjean reste confiant quant à l'avenir de l'ancien Planète Solar après son naufrage survenu en août dernier. Le navire, aujourd'hui baptisé Porima, se trouve actuellement, selon le Neuchâtelois, dans un chantier naval à Mumbai, en Inde. Il appartient désormais à un entrepreneur belge, Gunther Pauli. Selon la RTS, il aurait aujourd'hui perdu son pavillon suisse et par conséquent l'autorisation de naviguer. Raphaël Donjean, qui avait réalisé un tour du monde à bord de ce bateau couvert de panneaux solaires, s'est rendu sur place en décembre. À ses yeux, la situation est moins grave qu'il n'y paraît. Raphaël Donjean.
Les flotteurs, hein, là où il y avait des batteries, sont totalement détruits. Ils ont explosé probablement. Là, tout est à refaire. Mais pour le reste, la partie vraiment centrale, donc la nacelle, elle est bien intacte. Hein. Toute la zone de vie est bien protégée. J'ai pu passer du temps dans ce navire, boire un thé dans le cockpit. J'aurais pu dormir dans le bateau. Son âme est toujours là et puis c'est moins critique que ce que je pouvais imaginer avant de me rendre sur place.
L'effort principal est vraiment à mettre sur ces flotteurs, mais il y a quelques difficultés de ce côté-là.
Ils sont en Inde, c'est un pays qui est assez compliqué, qui n'a pas forcément toutes les infrastructures. Vous voyez, le carbone, il n'y a personne qui peut faire du carbone en Inde. Ils sont en train de les redessiner. Après, il va falloir refaire les flotteurs. Il faut être capable de trouver un chantier où on peut faire ce travail qui est quand même assez technique, assez pointu. Puis après, il y a toute la partie électrique, il n'y a plus de batterie. Il faut refaire tous les systèmes électriques. Et c'est ce à quoi ils travaillent aujourd'hui. Ils enlèvent tous les anciens câbles donc ils en profitent pour essayer d'alléger le bateau, de l'améliorer et le rendre plus performant.
Pour Raphaël Donjean, il y a de bonnes chances que l'ancien navire Planète Solar vogue à nouveau. Selon le Neuchâtelois, si la Suisse ne revient pas sur sa décision, d'autres pays se manifesteront pour offrir un pavillon au bateau. Une année exceptionnelle pour la réinsertion professionnelle. Le CNIP annonce que le taux d'intégration a atteint 95% l'an dernier, contre 66% en 2021. Sur les 20 bénéficiaires de l'assurance invalidité qui ont participé à des stages en entreprise, 19 ont été engagés à la fin de celui-ci. Après 2 années de pandémie, la demande en main-d'œuvre est partie à la hausse, mais pas que. Le directeur du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle, Touan Nguyen.
Alors déjà par un énorme travail de nos coachs, mais aussi une conjoncture neuchâteloise qui est favorable à ce taux de réinsertion. On est en augmentation depuis 2013. On a une moyenne de 50% sur les 10 ans, mais aujourd'hui on est bien au-dessus.
Cette réinsertion, en fait, ça se passe comment ?
Alors les gens viennent d'abord chez nous en stage d'observation. Un stage d'observation qui est entre 4 semaines et 6 semaines. Suite à ça, il y a un projet professionnel qui est monté. Donc la personne suit une formation au CNIP qui va de 3 mois à 1 année environ. Et suite à ça, nos coachs qu'on a en interne s'occupent de trouver une place de stage dans les entreprises de la région pour pouvoir transférer les compétences acquises au CNIP dans le monde industriel. Donc on forme des gens dans le décolletage et la mécanique CNC, mais aussi tout ce qui est autour, donc tout ce qui est logistique, contrôle qualité, polissage et automation.
Des propos recueillis par Yann Esler. Vous trouverez plus d'informations sur rtn.ch. L'université de Neuchâtel n'organisera pas d'examen le jour de la grève féministe. C'est ce qu'annonce le rectorat dans un courrier adressé à la communauté universitaire. Les facultés sont invitées, si nécessaire, à fixer des examens les samedis. Le jour de la grève féministe est prévu le 14 juin. Le projet immobilier Croix d'Or à Autry va susciter une dizaine d'oppositions. La mise à l'enquête publique s'est achevée hier. La commune indique qu'elles seront analysées. Le projet prévoit la création de 78 logements, dont une trentaine d'appartements avec encadrement sur une parcelle située à l'est du centre du village. Il avait été validé par le conseil général en décembre dernier. Lettres, journaux intimes, agenda ou encore permis de conduire, tout représente une source d'information pour l'association pour la conservation des archives de la vie ordinaire. Depuis 2003, l'organisation récolte, trie et met en valeur de nombreux documents afin d'en apprendre davantage sur la vie des Neuchâtelois à travers les âges. Parmi les documents archivés par l'association, les journaux personnels représentent une problématique à part entière. S'ils renferment de nombreuses informations, l'intimité des personnes se doit d'être respecter les précisions du président de l'association, Nicolas Lienert.
C'est une chose qu'il faut faire avec prudence à plusieurs égards. D'abord, il faut respecter la personnalité des autrices et des auteurs et on leur demande toujours de fixer un embargo, c'est-à-dire de dire combien de temps il faut attendre avant de pouvoir vraiment consulter sérieusement ses écrits personnels. Mais vous avez raison, ça pose des problèmes à plusieurs niveaux aussi, par exemple, dans l'intimité, souvent, le langage est un langage personnel. Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Ensuite, il faut aussi un peu éviter le piège de croire que, parce que c'est un écrit personnel, il dit la vérité. On peut aussi se raconter des histoires à soi-même. Ou bien, un autre danger, c'est de croire qu'on comprend immédiatement la personne. Par exemple, j'ai longuement travaillé sur une correspondance amoureuse. On croit, parce qu'on a tous été amoureux, qu'on comprend immédiatement, alors qu'à l'époque, une correspondance amoureuse est presque toujours orientée vers le mariage. Une promesse de mariage qui sous-tend au fond tous les débats, toutes les discussions.
Des propos recueillis par Guillaume Joly. Pour ses 20 ans, l'Association des archives de la vie ordinaire propose des lectures et des ateliers afin d'initier le public à l'importance de ces anciens documents. Vous trouverez plus d'informations sur rtn.ch. Les syndicats montent au front après l'annonce du rachat de Crédit Suisse par UBS. Ils veulent à tout prix éviter un licenciement massif orchestré par les hauts dirigeants des deux entreprises. L'association des employés de banque et l'Union syndicale suisse soulignent que des dizaines de milliers de salariés vivent dans l'incertitude. Elles ont présenté aujourd'hui toute une série de revendications. Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale.
Qu'il n'y ait pas de licenciement prononcé avant la fin de l'année, pour qu'on dessine d'abord les contours de cette nouvelle banque avant de décider quels sont les emplois qui disparaissent, et puis ensuite que ce processus soit vraiment intégré avec des représentants du personnel dans une task force où la Confédération aussi joue un rôle. Le plan social qui existe au Crédit Suisse et qui existe à l'UBS doivent être garantis et puis probablement adaptés à la nouvelle situation.
Pourquoi est-ce que la Confédération devrait s'impliquer dans ce processus ?
Tout simplement parce que d'abord, elle investit de l'argent public, Si ça se passe mal, on perdra cet argent public. Donc, pour que ça se passe bien, il faut encore une fois écouter ceux qui connaissent leur métier. Et puis, deuxièmement, je rappelle que si jamais il y a des milliers de suppressions d'emplois, c'est bien la collectivité qui va assumer les charges avec l'assurance chômage. Donc, je crois que c'est dans l'intérêt évident de la Confédération de poser des conditions pour que le personnel soit entendu et qu'on réduise l'impact sur les places de travail.
Des propos recueillis par Marie Vieumier. Crédit Suisse doit suspendre le versement de certains bonus à ses collaborateurs. Le Conseil fédéral a pris cette décision aujourd'hui pour les rémunérations déjà approuvées pour les exercices antérieurs à 2022 et qui ont été différées. Un suicide collectif prémédité, c'est la conclusion du ministère public vaudois dans l'affaire de la famille qui avait sauté du balcon de son appartement en mars 2022 à Montreux. La justice vaudoise, qui exclut toute intervention extérieure, s'apprête à classer l'affaire. C'est l'une des affiches de festival les plus attendues de l'année. Le Paléo a dévoilé ce matin sa programmation. Il y en aura pour tous les styles, tous les âges, du 18 au 23 juillet sur la plaine de Laas. La tête d'affiche de cette édition 46, c'est sans conteste Rosalia. Mais il y aura aussi Placebo, Chaka Ponk, les Black Eyed Peas, Aya Nakamura, Damso, Lompal, Big Flo et Oli, Indochine, Maxime Le Forestier ou encore Louise Attac. Même si le Paléo peut compter sur un public fidèle, le festival nyonnais doit faire face à la concurrence toujours importante en Suisse romande. L'inflation va aussi pousser les festivaliers à faire des choix. Le patron du festival, Daniel Rosselat.
Il y a toujours une inconnue par rapport à la fréquentation. Comment est-ce que les gens vont se comporter? Quelle va être leur approche par rapport à un festival? Là, je note qu'il y en a un en plus à Vevey, mais un en moins à Vanche. D'abord, je considère que c'est plutôt une chance d'avoir une région où il y a autant de festivals. Je me rappelle quand on a fait le premier festival, il n'y en avait presque pas. Puis aujourd'hui, il y en a beaucoup. Tant mieux pour le public, tant mieux pour les artistes. Et puis on verra bien. Nous, on reste relativement serein. Mais il y a toujours, bien sûr, un petit peu d'appréhension avant le moment où on met en vente les billets.
À l'étranger, en visite en Ukraine, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a fait part de son indignation. Il s'est rendu aujourd'hui à Boutcha, ville martyre près de Kiev, devenue un symbole des atrocités commises depuis l'invasion russe. Fumio Kishida est devenu le premier chef du gouvernement japonais à aller dans une zone de guerre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et sa visite intervient au moment où le président chinois se trouve à Moscou pour y rencontrer Vladimir Poutine, avec au centre des discussions l'offensive russe en Ukraine.
Arten, il est 18h12.
Sport. Les Suissesses inarrêtables au championnat du monde de curling en Suède, elles ont remporté cet après-midi leur 6e victoire en 6 rencontres. Sylvana Tirizzoni et ses coéquipières ont battu les favorites canadiennes 7-6. L'équipe de Suisse est en bonne voie pour une qualification directe pour les demi-finales réservées aux deux premières places. Elle reste d'ailleurs la seule équipe invaincue de ce tournoi. Et puis le gardien de Young Boys, David von Balmos, a dû passer par la case opération. Le portier Bernois sera indisponible 6 à 9 mois. C'est ce qu'annonce ce mardi l'actuel leader de Super League de football. David von Balmos était blessé au genou depuis plusieurs mois. Votre prochain rendez-vous avec l'info, c'est tout à l'heure à 18h30. Bonne soirée.